Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Temps Additionnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas du côté du studio, ça va nickel en ce mercredi 20 mars. Comme d'habitude, on va aborder toute l'actu sport de la semaine, du foot, du rugby, du tennis. Et pour parler de tout ça, bien sûr, je suis en compagnie d'Alex. Adichas Alex.
Adichas Raphaël, c'était une semaine un peu particulière. Hein. On a le TFC qui trébuche une nouvelle fois, le 15 de France qui reprend du poil de la bête après un parcours mitigé. Et on va en parler de tout ça aujourd'hui.
Deuxième défaite de rang hein, pour nos violets. Après la désillusion havraise le week-end dernier, c'est au tour des Lyonnais de prendre le relais pour réussir à battre cette équipe toulousaine. Donc défaite à domicile 3-2 dans un match où le suspense a duré tout au long du match et ça s'est joué autour de la 70e minute après l'entrée d'un certain Ryan Cherki. Donc tout avait mal commencé déjà pour Toulouse avec un but encaissé en première mi-temps par Alexandre Lacazette. Mais bon, l'inquiétude au vu du résultat du match n'était pas présente puisqu'on avait l'habitude maintenant depuis quelques matchs de remontada du TF en seconde période boostée peut-être par la motivation de l'entraîneur et des cadres de l'équipe. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs hein, en à peine 5 minutes. Le TFC a réussi à renverser la rencontre par deux buts. Le premier sur une très belle combinaison terminée par le buteur Thaïs Dalinga. Puis le deuxième but vient du capitaine Vincent Ciro sur penalty. Donc jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien jusqu'à l'entrée de Ryan Cherki qui va nous claquer un doublé en 5 minutes et nous mettre le thermostat sur moins 15 au stadium. Score final 3-2. Alex, toi qui étais au stadium et en virage brise, il faisait un peu froid, non, sur l'île du Ramier.
Alors tu l'as dit, hein, on s'est pris une grosse clim, hein, il faisait très froid après le match, effectivement. Mais franchement, le stadium mérite mieux que le match qui nous a été proposé vendredi dernier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du match? 5 buts marqués? Ok, oui, il y a eu des buts de chaque côté, c'est vrai. Mais bon, on a eu droit quand même à 20-25 minutes de jeu offerts par nos joueurs. Et c'est pas suffisant par rapport à l'affluence du public et du tifo en virage brise que les Indians ont mis en place pour l'occasion des 87 ans du club. Mais d'ailleurs, Raphaël, c'est aujourd'hui que le club souffle ses 87 bougies. Bon anniversaire.
On peut souhaiter un joyeux anniversaire au TFC.
Voilà, mais bon, je vais revenir quand même parce que c'est vrai qu'on a fait un... Enfin, c'était pas terrible. Mais bref, hein, les dirigeants ne peuvent pas se réfugier derrière un manque de soutien. Après, c'est tellement frustrant de voir qu'on n'a rien fait en première période avec ce réflexe de revenir en arrière alors qu'on a la possibilité d'aller vers l'avant ou de centrer. C'est désespérant aussi de voir qu'on a été incapable pendant les 10 dernières minutes d'aller porter le danger dans la surface adverse pour espérer une égalisation alors qu'on a renversé l'Olympique Lyonnais en quelques minutes. Surtout que, comme t'as dit, Ryan Cherki en deuxième période nous a éteint avec son but 10 minutes après son entrée en jeu et sa passe décisive pour Jacob Ryan. Bref, l'Olympique Lyonnais récupère les 3 points de la victoire en 4 minutes. Merci, au revoir. Tant pis pour l'Europe, hein. Moi ce qui me convient c'est le maintien en Ligue.
Ah c'est sûr, là maintenant l'objectif principal c'est objectif maintien. On y croyait peut-être hein, avec la série de victoires qu'on avait réussi à faire face au top 5 du championnat, mais là c'est le TF de septembre, octobre, novembre, décembre qu'on retrouve. C'est un peu inquiétant, mais bon, après ça arrive, un faux pas. Après Lyon, on peut dire que c'est redevenu quand même une grosse équipe qui réussit à scorer pas mal. Donc après moi j'ai pas retenu forcément de performance individuelle, j'ai vu le groupe en dessous en première mi-temps et dans les 20 dernières minutes. T'as retenu toi des performances ou pas?
Oui, même si on a perdu, et je devais quand même dire que Yann Gbo et Thaïs Dalinga se sont distingués. Ils ont boosté l'attaque toulousaine. Ce que j'ai moins aimé en revanche, c'est Ciro qui a moins brillé. Et même s'il marque le pénalty, je ne l'ai pas trouvé très satisfaisant à regarder jouer. Sans parler de l'erreur de Carles d'avoir fait jouer Magri et remplacer Spirings par Caceres. Ça a tué notre jeu. J'imagine que tu dois penser la même chose, oui.
C'est ça, des fois il y a des coachings gagnants, mais là le coaching n'a pas été gagnant forcément. Spirings qui était assez solide au milieu de terrain, qui tenait le milieu de terrain par rapport à Ciro, c'est celui qu'il fallait pas remplacer et on l'a remplacé. Donc ce qu'on peut un peu tirer du match, c'est l'envie qu'on a eu en retour de seconde période qu'il faut garder, et maintenant c'est le mental qu'il faut travailler parce que les cadres de l'équipe maintenant on les a. Et franchement sur la suite de la saison, j'ai pas peur. Si on continue avec cette mentalité-là, on va forcément y arriver, ça va forcément payer. On va faire quand même un petit point avant de passer au prochain sujet. Pardon. Le Paris Saint-Germain, toujours premier au classement, 59 points, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est nos Toulousains, 11e avec 29 points, pas très loin, à 4 points de la première zone de relégation. Donc, on va pas dire que c'est inquiétant, on y croit pour nos violets quand même pour se maintenir, ça va être pas mal, le tirage est assez favorable, on va aller jouer à Clermont. qui est dans le bas du classement. On va aller jouer à Strasbourg, qui est 12e, qui est juste en dessous de nous, donc en adversaire direct. C'est là, ça va être un vrai test. Ça va être très intéressant de suivre les prochains matchs, en tout cas.
Alors Clermont, Montpellier, Strasbourg, Lorient qu'on va affronter sont des adversaires directs. Il faudra être prêt pour ces véritables combats et pas pour aller faire les beaux à Paris ou contre Marseille. Donc faudra y aller mollo hein, pour la communication. On veut moins de com et plus de résultats. Merci. Même si j'avoue que le community manager du TEF lâche masterclass sur masterclass. Hein. Ah oui, au fait, il y a moyen que j'aille faire le déplacement avec les Indians à Clermont. Je te tiendrai au courant au vu d'un possible vlog, pourquoi pas.
Exactement, si tu peux être notre envoyé spécial sur place à Clermont, ce serait quand même magnifique.
Alors c'est pas Paris malheureusement, c'est Clermont-Ferrand, mais c'est déjà bien, c'est un déplacement.
C'est déjà bien, c'est déjà bien. Ça y est, le tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions est tombé. Et franchement, bah, c'est assez équilibré, on va avoir du beau spectacle. Franchement, je vais vous dire un peu les affiches. Le 9 avril à 21h, on aura Arsenal-Bayern suivi de Real Madrid-Manchester City. Puis le 10, on aura PSG-Barcelone. De beaux souvenirs hein, du côté barcelonais en tout cas. Je me rappelle d'une certaine année 2016. Et puis, Atlético-Dortmund, un match jamais vu pour l'instant, Champions League, donc ça va être très intéressant. Franchement, le match à voir, à pas louper, c'est Real City pour le niveau de jeu. C'est les deux favorites qui s'affrontent si tôt dans le tournoi. Ça va être un match aller-retour incroyable. On sait les Real City depuis... Bah, ça fait 2-3 ans de suite qu'ils s'affrontent maintenant. C'est des matchs assez palpitants, évidemment, PSG-Barcelone. PSG qui, pour l'instant, n'affronte que des équipes espagnoles, hein, franchement, la Real Sociedad, Barcelone, et après, le PSG va tomber soit contre l'Atlético, soit contre Dortmund, donc on peut peut-être espérer une épopée parisienne cette année. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses, Alexandre ?
Alors, c'est peut-être possible, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit que le PSG va aller dans les phases finales, alors que, bien sûr, ça sort soit ça sort en quart de finale, ou en huitième, bon, cette fois, ils sont en quart de finale. Contre le Barça, comme tu avais souligné en 2016, les Barcelonais s'en rappellent très bien. La remontada, c'est d'ailleurs de là d'où vient l'expression maintenant. C'était un énorme match, sacré match. Ils mènent 4-0 au début, je parle du PSG. Hein. Et là, au retour, le Barça qui vient vraiment crucifier le PSG. Bon, après, c'est du passé. Hein. C'est pour ça que justement que le PSG va affronter un Barça qui n'est plus le même qu'il y a 7 ans. Je vais aussi me pencher sur Arsenal-Bayern. Très grosse rencontre, ça fait 7 ans aussi qu'on ne les a pas vu jouer. Arsenal qui est plutôt sur une bonne lancée en Première Ligue. Hein. Je sais pas si tu vois la Première Ligue en ce moment, mais c'est très impressionnant ce que Arsenal fait comme parcours. Real Madrid, Manchester City, Ligue des Champions 2022, on s'en rappelle, très gros match. C'était vraiment inattendu que le Real Madrid vienne s'imposer à la fin. Atlético Dortmund, je pense un peu un duel d'outsiders. Hein. Voilà, je sais pas ce que t'en penses.
Bah, c'est le duel où on n'a pas vraiment de favoris. Après, tous les duels, on n'a pas de favoris, je pense. Hein. Franchement, je vois pas un sortir, à part le Bayern, peut-être contre Arsenal. Et encore, Arsenal est très solide, hein, défensivement. Donc, moi, je vois pas de favoris de ces quarts de finale, en tout cas.
En tout cas, j'ai un pote qui supporte Arsenal qui m'a dit que c'est la meilleure défense de Première Ligue, Arsenal. Donc, c'est vrai que le Bayern, qui n'est pas vraiment au-dessus en Bundesliga, on a vu avec le Bayer Leverkusen qui gagne tous ses matchs, va être compliqué. Mais je pense à peu près que, pour moi, le Bayern va s'imposer face à Arsenal. Ça va être compliqué. Paris-Barça, à mon avis, je pense que le PSG va s'imposer net, sans bavure. Et Real City, ça va être très compliqué, ça on le sait. Et c'est vrai que Madrid-Dortmund, je peux pas te dire le vainqueur. Hein.
Non, franchement, ça va être très passionnant. Mais juste pour revenir sur le Bayern, l'âme du Bayern, quand même, c'est de marquer. On connaît les scores qu'ils peuvent mettre. Donc face à la meilleure défense, ça va être un vrai défi. On se donne rendez-vous le 9 avril. Des bleus retrouvés, des bleus conquérants, des bleus convaincants et des bleus surtout vainqueurs. Vainqueurs du crunch, le match à ne pas perdre, le match pour l'honneur France-Angleterre, c'était samedi soir. Et quel match, hein, il était à la hauteur des attentes. C'est encore une fois allé dans tous les sens, on est passé par toutes les émotions pendant 80 minutes. Une action des Anglais, puis une action des Français, c'était franchement incroyable. Finalement, bah, ce sont les coéquipiers de Grégory Aldrit qui se sont imposés dans les derniers instants du match, victoire 33-31 dans le stade de Lyon sur une dernière pénalité victorieuse de notre serial buteur Thomas Ramos qui a permis à la France de passer devant.
Et oui, quel match de nos bleus qui mettent les Anglais au tapis à la toute fin. Ce crunch n'avait pas réellement d'enjeu pour moi, mais un match contre les rivaux anglais, qu'il soit amical ou pas, ça reste le crunch. On remercie bien sûr Thomas Ramos de nous avoir fait vibrer, Gaël Ficou, Greg Aldrit. Et bien sûr, la révélation, Nolan Le Garec et le rookie du stade français, j'ai nommé Léo Barret. Et en plus de ça, l'Italie a battu le Pays de Galles à Cardiff et se retrouve donc 5e du tournoi. C'est la meilleure performance de leur histoire dans le tournoi Destination. Mais bon, je suis pas très joyeux quand même parce que j'ai une pensée pour Ange Capoats qui n'a pas joué ce match suite à une fracture déplacée du doigt faite contre l'Écosse. Il a été opéré à Toulouse et est en convalescence pour à peu près 2 mois si tout se passe bien pour lui. J'espère qu'il reviendra fouler la pelouse des 11 ballons plus fort.
Exactement, c'est sûr. Là, le crunch, il avait pas trop d'enjeux puisque l'Irlande était déjà quasiment championne, sans même faire le grand chelem. Donc c'était un match quand même pour l'honneur parce qu'on sait que le crunch France-Angleterre, c'est le match qui... On peut perdre tous les matchs, mais pas France-Angleterre aussi nation. Et c'est vrai que pour l'Italie, c'est incroyable parce qu'on a l'habitude de les voir 6e, quoi. Enfin, en tout cas, depuis petit, je vois l'Italie, c'est bon, on va gagner. Donc les voir 5e, c'est bien, ça redonne espoir, surtout qu'ils sont pas très loin de l'Écosse. Au final, ils sont qu'à 1 point de l'Écosse. Donc ça donne de l'espoir peut-être pour une plus grosse rivalité à l'avenir, un championnat plus serré, un championnat destination plus serré. Donc ça va être très intéressant. Et pour revenir un peu sur le match quand même, sur le match France-Angleterre, ça a été très très serré. Ça a été d'un côté à l'autre, à la 4e minute les Anglais menaient, à la 16e c'était les Français, à la 23e c'était les Anglais, et à la 78e minute sur une pénalité de Thomas Ramos, alors qu'on perdait 29 à 31 je crois.
C'est ça, ouais.
C'était... Même si la pénalité était facile, j'étais devant mon écran, j'étais pas bien moi.
Ah oui, non, c'était hyper serré, honnêtement. Mais justement, comme ce qui était attendu, France-Angleterre, gros match. C'est vrai que quelques minutes avant que la France gagne, c'était l'Angleterre qui menait. Et puis, comme j'ai dit, c'est Thomas Ramos qui vient nous sauver. En plus, le commentateur exceptionnel, le commentateur, il nous a fait vibrer aussi quand Thomas Ramos tout simplement battu les Anglais.
Exactement, c'était une victoire magistrale contre les Anglais. Un mot du tournoi d'Indian Wells. On vous en avait parlé la semaine dernière. La finale opposait le numéro 4 mondial, le russe Daniil Medvedev, contre l'ovni du tennis mondial espagnol, l'espagnol, deuxième meilleur joueur du monde, Carlos Alcaraz.
Alors, on n'a pas l'habitude d'en parler dans cette émission, mais le tournoi d'Indian Wells a été plein de rebondissements en catégorie simple messieurs. Tout d'abord avec le Serbe Novak Djokovic qui s'est fait éliminer prématurément par l'Italien Luca Nardi qui est sorti le tour suivant contre l'Américain Tommy Paul. On a eu Gaël Monfils qui était le dernier Français du tournoi mais n'a pas réussi à aller au bout des huitièmes de finale, battu par le Norvégien Casper Ruud. Il y a eu le duel italo-espagnol Sinner-Alcaraz, remporté cette fois-ci par Alcaraz. On se rappelle de la victoire de Yannick Sinner à l'Open d'Australie qui avait surclassé les plus grands. Sauf que là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est là que ça joue vraiment. Parce que là, on a eu la finale Alcaraz-Medvedev. Quelle finale, honnêtement, exceptionnelle.
Surtout le premier set, 7-6 pour le premier set. C'était vraiment serré, franchement, un duel de titans. Donc score final quand même 7-6, 6-1. Sur le deuxième set, Carlos Alcaraz a été franchement monstrueux. Il a prouvé sa place de numéro 2 mondial et qu'il mérite ce titre de nouveau prince d'Indian Wells.
Surtout qu'en plus, c'est la deuxième fois que Medvedev perd en Open Australie contre Yannick Sinner. Et là, en tournée d'Indian Wells, contre Alcaraz. Il perd contre les deux jeunes.
Exactement, exactement. Et chez les femmes, on va faire un petit point quand même chez les femmes, c'est la première mondiale polonaise Swiatek qui remporte en 2-7 ce tournoi d'Indian Wells. Face à la grecque Sakkari, donc 6-4, 6-0. Donc on n'a pas été gâté cette semaine au niveau info, mais pas d'inquiétude. La semaine prochaine, le contenu sera au rendez-vous. Et dès ce week-end, c'est le retour de la Formule 1, le Grand Prix d'Australie. Est-ce la continuité de la domination écrasante de Max Verstappen? Ou alors une surprise pour nous bouleverser le championnat? Moi j'aimerais bien une surprise quand même du côté tête de chez Ferrari ou de chez Mercedes. Le Stade Toulousain aussi revient après sa désillusion face aux Catalans de l'USAP. Nos stadistes ont intérêt à ramener la victoire à la maison face à nos voisins bordelais. C'est le derby de la Garonne un peu comme au foot. Stade Toulousain UBB, c'est ce dimanche 24 mars à Chaban-Delmas. Le tournoi destination étant terminé, on aura le retour de nos Frenchies dans les clubs, le retour des vraies équipes types et le retour du vrai spectacle.
Alors moi j'attends, mais plus que jamais, le Stade Toulousain Bordeaux. Enfin Bordeaux-Stade Toulousain, pardon, parce que ça se passe à Bordeaux. Eh oui. Bien sûr, le derby de la Garonne va se jouer à Bordeaux. On va peut-être avoir le retour d'Antoine Dupont et des cadres, comme tu as dit, pour les Six Nations, parce que le tournoi est fini. Ils ont un peu quelques jours de repos et voilà, on va voir ce que ça donne.
Exactement, ça va être le retour du spectacle. On attend aussi prochainement le retour de Romain Tamac, peut-être, qui revient de sa blessure petit à petit. Donc là, franchement, la fin du championnat va être très palpitante. L'émission d'aujourd'hui est officiellement terminée et c'était aussi officiellement aujourd'hui la 10e émission à laquelle vous assistiez. Donc depuis ce 16 janvier 2024, chaque semaine, on vous relate toute l'actu sport à notre sauce et c'est toujours un réel plaisir de préparer et d'enregistrer tout ça chaque semaine avec Alex.
C'est beau, 10e émission, faut fêter ça bien sûr, mais c'est vrai que cette semaine on a eu moins d'événements sportifs comparé à l'émission précédente. Mais on vous promet que la semaine prochaine, même heure, on va vous régaler avec les matchs à venir. En tout cas, merci beaucoup à Radio Esprit Occitanie. C'était comme toujours, Raphaël, un plaisir de discuter avec toi.
Plaisir partagé aussi, Alexandre. Donc on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même radio, sur temps additionnel. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine.